La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait en fait trois groupes.
Last week we saw that there are three groups.
Trois groupes d'hommes.
Three groups of people.
On peut toujours prendre n'importe quel groupe et le diviser en quelque chose et en son contraire.
You can always take something and divide it into something and its opposite.
Mais la Bible nous apprend qu'il y a en fait trois types d'hommes.
The Bible teaches that there are in fact three types of people.
Il y a l'homme tel qu'il naît naturellement. Non croyant, c'est ce que la Bible appelle l'homme naturel. Et puis la personne qui fait la connaissance de Jésus-Christ et qui le reçoit comme son Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'elle naît de nouveau, que l'Esprit prend naissance en elle. Et pour cette raison, la Bible appelle ces personnes l'homme spirituel. Et puis finalement, il y a un troisième type d'homme. Lorsque je dis homme, il s'agit bien sûr des hommes ou des femmes. Et c'est ce que la Bible appelle l'homme charnel. Charnel, ça ne veut pas simplement dire qui est fait d'os et de chair. Mais ça veut dire qu'il est dominé par la chair. Et la chair, c'est pas seulement ce que des fois on appelle le péché de la chair, la sexualité incontrôlée. Non, dans la Bible, la chair, ça fait référence à notre vieille nature. Et on peut être chrétien, donc. Mais continuer à être dominé par cette vieille nature qui ne meurt pas en nous. On peut avoir reçu Jésus comme son Sauveur, mais pas encore comme son Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu que la caractéristique de ce dernier état, ce n'est pas encore une fois une vie remplie de débauche.
It's not necessarily a life full of debauchery.
Non, le signe d'une vie marquée par ce que la Bible appelle la chair,
but the sign of what the Bible calls the flesh,
c'est la jalousie,
jealousy,
c'est la discorde.
And discord.
Paul dit en effet dans 1 Corinthiens 3, on peut lire ensemble si vous voulez, 1 Corinthiens 3, lisons ensemble les versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des alcooliques, des gens qui se livrent à la sexualité effrénée, non, il est dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine?
So Pierre just read verses 1 to 3.
Encore une fois, Dieu s'intéresse à notre cœur.
Again, God is interested in our hearts.
Il ne veut pas qu'on lui donne quelques heures par semaine.
He doesn't want us just to give him a few hours a week.
Il ne veut pas qu'on lui donne beaucoup d'argent.
Or lots of money.
Toutes ces choses-là lui appartiennent.
All these things belong to him.
Ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui donniez votre cœur. Et en fait, il explique que c'est bien d'être né de nouveau. Comme un petit bébé, c'est mignon un petit bébé. Mais si la croissance est arrêtée, alors c'est une tragédie. Et j'ai deux enfants, deux garçons. Ils ont maintenant 18 et 15 ans, donc ils sont un peu plus grands. Mais quand ils étaient petits, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Et avec la maturité, il y a une meilleure entente entre eux. Et les chrétiens, le Seigneur dit, c'est pareil.
And
Il y a un autre passage dans Éphésiens où Paul nous dit un peu la même chose. Il nous dit dans Éphésiens 4, verset 13. Quelqu'un a une page dans la Bible à la colombe? 220 dans le Nouveau Testament, vers la fin. Paul explique que Dieu a donné des serviteurs pour bâtir l'œuvre de Dieu.
Paul explains that God gave servants to build the work of God.
Pour bâtir l'Église.
To build the church.
Pour que nous soyons, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
Ainsi, encore une fois, il dit, nous ne serons plus des enfants,
again, says, we'll no longer be infants,
flottant et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
We'll no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ.
C'est intéressant parce que dans le monde qui nous entoure, on dit l'union fait la force.
It's interesting because in the world around us we say union means strength.
Mais Paul nous dit le résultat de l'unité, c'est pas la force en nombre.
But Paul says the result of unity is not strength in number.
Il dit c'est la maturité.
But maturity.
Et ici, dans ce passage de 1 Corinthiens, il nous dit que le manque d'unité, c'est le preuve de non-maturité. Et il continue en se plaignant justement des divisions qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Parce que les gens se réclamaient de tel ou tel prédicateur, de tel ou tel serviteur. Et disait, quand l'un dit, moi, verset 4, je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun ? C'est très humain de se réclamer de telle ou telle personne célèbre. On se réclame des fois d'une équipe de foot, d'une région de France, d'une église. Pourquoi ? Parce que quelque part on cherche la gloire par association. On peut dire, il y a ma sœur qui travaille avec la sœur de l'adjoint au maire. Ou j'ai eu un autographe de Zinedine Zidane. Et l'intention, c'est toujours de faire une que les gens pensent, waouh, vous devez être quelqu'un d'important pour avoir eu ces choses. Mais Paul, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'Apollos ? Donc, Apollos était un autre prédicateur de l'église de Corinthe.
Paul says, who is Apollos? Apollos was another teacher in the church of Corinth.
Qu'est-ce que c'est que Paul ?
Who is Paul?
Il dit, nous ne sommes que des serviteurs.
He says they are only servants.
Comme des domestiques attachés au service d'un maître.
Like servants attached to a master.
Et en fait, il dit, ne sont que des instruments que Dieu utilise pour amener les gens à la foi. Voyez, il dit, le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. La foi, c'est un don de Dieu. Il va continuer en multipliant les métaphores, les comparaisons. On a vu qu'il avait parlé de trois types d'hommes. Là, il va continuer avec le nombre 3. Il va prendre 3 illustrations pour dire ce que nous sommes. Il va parler de plantes, de bâtiments, et puis de temples. Lisons d'abord les versets 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et puis il va commencer à parler de l'édifice de Dieu, mais on le verra un peu plus tard. Encore une fois, Paul veut montrer que un pasteur, un prédicateur, un évangéliste, c'est rien de spécial.
Again, Paul is wanting to show that a preacher, an evangelist, a pastor is nothing special.
La Bible dit qu'on ne doit pas les appeler des révérends.
And the Bible says that we shouldn't call them reverend.
Monseigneur.
Monseigneur.
Mon père.
My father.
Non, la Bible nous dit que c'est Dieu qui fait le travail. Et il veut nous utiliser tous autant que nous sommes.
And he wants to use us as we are.
Et souvent, on peut parler à un jardinier.
You could talk to a gardener.
Et puis on va lui dire, « Ah, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites pousser ?» Et la personne avec fierté va dire, « Ah là, je fais pousser des laitues. » Puis là, j'ai des tomates, et puis là, j'ai des endives. En fait, c'est une illusion.
In fact, it's only an illusion.
Une réponse réelle, en accord avec la réalité,
a real answer which would accord with reality,
devrait être dire, moi, je ne fais rien pousser du tout.
Would be, I actually don't grow anything.
D'accord, j'ai préparé la terre, j'ai mis de l'engrais,
okay, I prepare the soil, I put fertilizer down.
J'ai fait des trous,
make holes.
J'ai mis quelques graines, puis j'ai remis la terre par-dessus, puis depuis j'arrose régulièrement. Quand je vois des mauvaises herbes, alors je les enlève. Mais moi je ne sais rien faire pousser. C'est Dieu qui fait pousser. Seul Dieu peut donner la vie. Amen. Et quelque part, la croissance des organismes complexes, c'est une merveille de Dieu. L'homme, en fait, il ne sait pas faire.
Man doesn't know how to do this.
Est-ce que vous avez déjà vu une voiture qui grandirait avec votre famille?
That would grow with your family.
Ça commencerait par une place.
You'd start with one place.
Et toujours en marchant, la voiture pourrait prendre un peu de taille.
And as you go through life, it could grow a little bit.
Et pof, il y aurait un deuxième siège.
And suddenly, there'll be a second seat.
Non, l'homme ne sait pas faire ça. J'essayais de penser, peut-être vous aurez une idée que vous pourrez me communiquer plus tard, mais la seule chose qui puisse grandir comme ça, c'est pas très complexe. C'est le ballon de baudruche.
It's a balloon.
Et à la fin, ça explose.
And at the end, it explodes.
Lorsque l'on étudie la création,
when you study the creation of God,
sans idées préconçues, on ne peut s'émerveiller que devant la sagesse et la merveille de Dieu. Je vous recommande un livre qui s'appelle « Tes œuvres sont admirables » qui est écrit par un docteur, Paul Brand, et un écrivain chrétien, Philippe Yancey. On l'a dans le prêt de livres, c'est Gloria qui l'a mis en circulation.
It's available in the library that Gloria has.
Je vous le recommande.
And it's really good, worth reading.
Paul continue en disant, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un.
And Paul continues in saying that he who waters and he who plants are just one.
Il ne doit pas y avoir de compétition entre les gens que Dieu utilise pour parler de l'Évangile. Paul avait été le premier à faire l'évangéliste dans la ville de Corinthe. Et puis après, Apollos était resté comme pasteur, les avait enseignés dans la parole. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'œuvre de chacun, c'est le résultat. Et ce qui compte, verset 8, c'est que chacun recevra une récompense selon son propre labeur. C'est important de noter qu'il n'est pas dit selon ses propres résultats. Trop souvent, on est omnibulé par les résultats. Encore une fois, Dieu regarde au cœur. On peut obtenir des résultats avec des motifs qui sont mauvais. Si on cherche à réunir du monde, on peut utiliser des méthodes charnelles. On peut donner de la pizza gratuitement. Et ça peut attirer du monde. Mais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de faire ce à quoi il nous a appelés. Et de le faire de tout notre cœur pour sa gloire, pas la nôtre. Et notre récompense, ce n'est pas la louange des hommes. Les compliments des hommes, ils sont tellement changeants. Un jour, on va vous dire, ah, vous êtes formidable. Et puis, trois semaines plus tard, on ne voudra plus vous voir. Parce qu'on aura fait quelque chose qui déplaît. Ce qui compte, c'est le compliment du Seigneur. Qui un jour pourra vous dire, bien, bien fait, bon et fidèle serviteur. Il y a un concept ici, au verset 9, qui est fantastique, c'est que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a un mot moderne qu'on utilise en marketing. Vous avez peut-être entendu, c'est le mot synergie. Et en marketing, l'idée de synergie, c'est que 1 plus 2 n'est pas égal à 2. Plus 1.
Oh,
1 plus 1, c'est plus grand que 2. Et l'idée, c'est que si on réunit deux entreprises, la production qui va en résulter, le profit qui va en résulter, ce sera plus grand que la somme des productions et des profits qui étaient là avant dans les deux entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même mot, synergie, en grec, que Paul utilise lorsqu'il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Et quand on y pense, c'est fantastique. Parce que ce n'est pas avec n'importe quelle entreprise qu'on s'associe. C'est avec Dieu lui-même. Nous, on n'a pas grand-chose à lui amener. Et lui est prêt à tout nous donner. C'est un peu des fois lorsque, je me souviens, les enfants étaient petits. Et que, par exemple, on ramassait les feuilles dans le jardin. Sébastien ou Tonio voulaient m'aider. Ils prenaient leurs petites pelles, leurs petits râteaux. Puis ils essayaient de ramasser les feuilles avec moi. Et en fait, le meilleur endroit pour ramasser les feuilles, c'était là où j'avais déjà ramassé toutes les feuilles. Et ils faisaient un autre petit tas de feuilles de leur côté. Mais je les encourageais, je disais, c'est bien ça, tu travailles bien.
Pierre encouraged them and said, well done, that's great.
C'était pas pour les tromper.
It wasn't to deceive them.
Mais c'est parce que leur cœur y était.
It's because their heart was right.
Et Dieu, il nous regarde et il est là, la même chose, il pourrait faire tellement plus vite et tellement mieux sans nous.
And God is the same, he could do so much more and so much without us.
Mais dans sa sagesse, dans sa souveraineté,
but in his wisdom and sovereignty,
il a décidé de, allez, viens travailler avec moi.
He's decided to say, come on, come and work with me.
Mais si c'est vraiment lui qui travaille, si c'est pas nous qui essayons de mener la barque, alors attention, ça peut vraiment accomplir des choses merveilleuses.
Watch out, because amazing things can happen.
Paul nous dit donc que tout ce temps que nous sommes que des ouvriers avec Dieu, pas seulement les pasteurs ou les évangélistes.
So Paul says, well, we are all fellow workers with God, not just evangelists and pastors.
Et puis tous nous avons notre part à jouer.
And we've all got our part to play.
Hier soir, c'était sympathique, chacun a pu chanter.
Yesterday it was nice, everybody was able to sing.
Et le Seigneur aurait pu avoir une chorale d'anges.
And the Lord could have put a choir of angels.
Mais il l'a pas fait.
But he didn't.
Et donc il faut être heureux de tout travail qu'il nous donne.
So we should be glad about every work that the Lord gives us to do.
On vous a peut-être expliqué encore une fois à l'école qu'on ne doit pas multiplier les comparaisons.
You might have learned at school that you shouldn't multiply comparisons.
Mais c'est le Saint-Esprit qui inspire l'Écriture, la parole de Dieu.
But it's the Holy Spirit who inspires the word of God.
Et lui, il se moque des règles des hommes.
And he laughs at the rules of men.
Et après avoir parlé des plantes, maintenant il va parler d'édifices.
So after we've spoken about plants, he's going to talk about
edifices. Donc nous avons vu qu'au verset 9, Paul leur dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Verset 10, nous allons continuer. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Amen. Paul passe à l'image d'un édifice.
So Paul is now using the image of a building.
Nous savons bien sûr que l'église, ce n'est pas un bâtiment.
We know that the church is not a building.
Trop souvent, on a pensé que l'église, c'était la cathédrale, c'était le beau bâtiment en pierre.
Too often we think of the church as the cathedral, the beautiful stone building.
Mais on sait que dans l'église des premiers temps, les gens se réunissaient chez eux. Ici, les gens, certaines personnes disent, mais c'est pas une vraie église, c'est dans un hôtel. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un bâtiment permanent. Mais je préfère avoir un hôtel avec des croyants pleins de foi et d'enthousiasme pour le Seigneur qu'un beau bâtiment qu'on viendrait photographier. Avec une foi morte à l'intérieur. Et ce n'est pas ce qui manque dans notre beau pays de France, malheureusement. Pierre disait que les chrétiens, ce sont des pierres vivantes. Et qu'ensemble, nous formons l'Église de Christ. Paul va utiliser le langage de la construction. Il va nous parler des fondations, de la façon dont on construit, et puis de l'inspection finale. À votre avis, quelle est la partie la plus importante d'un bâtiment? On peut dire à juste titre que ce qui est le plus important, c'est la partie cachée.
most important part is the bit that you don't see.
C'est la fondation de ce bâtiment, de cet édifice. La fameuse tour de Pise en est un exemple criant.
The famous Tower of Pisa is an excellent example of this.
Elle a été construite sur un terrain sablonneux où il y avait de l'eau.
It was constructed on a very sandy piece of ground where there was water.
Et c'est pour ça qu'au fil des ans, elle a pris un petit air penché.
That's why during the years it started to lean.
Au point qu'il a fallu récemment refaire les fondations ou arrêter le glissement. En mettant des milliers de tonnes de béton pour l'ancrer.
Thousands of tons of cement in to make it solid.
Ça a tourné à l'avantage de la tour de Pise.
That obviously came to the advantage of the Tower of Pisa.
Maintenant, on vient la voir pour à cause de cet aspect penché.
People go to see it just because it's leaning.
Mais dès l'époque où elle a été construite, si les gens avaient vraiment pris la Bible à cœur, ils auraient pu prendre l'enseignement de Jésus dans Matthieu 7, 24.
Could have taken the advice of Jesus in Matthew 7, verse 24.
C'est page 28 dans le Nouveau Testament. 8. Matthieu 7, 24. Jésus, parlant de son enseignement, dit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
So, Matthew 7, 24 is therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.
Jésus nous dit donc que ses paroles, son enseignement, c'est un rocher, une fondation.
Jesus said that his words, his teaching, were a rock, foundation.
Et Paul va plus loin et nous dit que, en fait, la fondation, c'est tout simplement Jésus-Christ. Il est la fondation, le fondement de notre foi. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe disait déjà, dans Ésaïe 28, 16, c'est pas la peine de vous y tourner si je vais vous le lire. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir.
So Isaiah 28, verse 16. This is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed.
La fondation, donc, c'est la fondation de l'Église, de son message, c'est Jésus-Christ. Mais c'est aussi la fondation qui doit être la fondation de notre vie. L'Église catholique a enseigné que Pierre était le fondement de l'Église. Et c'est vrai qu'il y a un verset qui peut être pris dans ce sens dans Matthieu 16, 18. J'aimerais qu'on s'y tourne juste pour un instant. Vous souvenez de l'épisode pouvons commencer au verset 13.
«
Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste et d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et le verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » La seule chose, c'est que quand on regarde le texte original en grec, on voit en fait que Jésus fait un jeu de mots. Il lui dit, moi je dis que tu es Pierre, c'est le mot Petros. C'est une petite pierre. Et puis il dit, et sur cette pierre Petra, je bâtirai mon église. À quoi fait-il allusion lorsqu'il parle de Petra? Si vous venez le mercredi soir à l'étude que nous sommes en train d'achever sur l'évangile de Jean, vous savez que le verset, le clé de cet évangile, c'est Jean 20-31. Parce qu'il nous donne la raison pour laquelle Jean a écrit son évangile. Et de façon surprenante et non surprenante, il nous dit exactement que son évangile, il a été écrit pour que nous ayons la même révélation, la même Petra. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Exactement les mêmes mots. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça le fondement de la foi chrétienne. La vraie fondation, c'est Jésus-Christ. Paul dit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et donc, la première chose à faire, c'est de fonder notre œuvre, notre activité sur Jésus-Christ. Que ce soit pour bâtir l'Église, que ce soit pour bâtir notre vie. Paul ensuite parle des matériaux de construction. Une fondation, c'est bien. Mais une fondation qui est abandonnée, c'est triste. Ça vous arrive peut-être de voir dans des quartiers, quelqu'un a commencé quelque chose et puis ça reste là. Ça fait penser qu'il y a eu des problèmes, des banqueroutes, des malversations peut-être. C'est pas le tout de couler une fondation, il faut bâtir dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, une de mes histoires favorites, c'était l'histoire de Naf-Naf. Les trois petits cochons. Il y en avait un qui avait bâti sa maison avec de la paille. L'autre qui avait bâti sa maison avec du bois. Puis il y avait le travailleur qui avait bâti sa maison avec des briques et du ciment. Puis vous connaissez l'histoire, le méchant loup est venu. Il a soufflé. La petite maison en paille, elle a volé en éclats. La maison en bois, elle n'a pas tenu longtemps. Heureusement qu'il y avait Naf-Naf qui avait construit sa maison en briques. Ça a pu devenir un refuge pour ses frères. Paul nous parle exactement de la même chose ici. La qualité de l'édifice, du bâtiment, va dépendre des matériaux utilisés. Il compare deux groupes de matériaux. D'abord, le premier groupe, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Puis après, il parle du bois, du foin, du chaume. De toute évidence, le premier groupe, ce sont des matériaux de bonne qualité. Ce sont des matériaux qui vont durer, des matériaux qui sont rares, des matériaux qui sont beaux, qui ont de la valeur, qui sont chers à acheter, peut-être difficiles à obtenir, mais ils vont durer. Les autres matériaux, c'est le bois, le foin, la chaume, le chaume, c'est-à-dire le bois, le foin, la paille, des matériaux qui sont passagers, des matériaux qu'on trouve facilement, qui sont ordinaires, qui sont plutôt laids, pas très chers, bon marché, faciles à obtenir, mais qui ne durent pas bien longtemps. Quelque part, nous avons le choix. Dans la Bible, on parle souvent de l'or comme étant la foi purifiée par les épreuves. La sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu, si comparée à quelque chose de très précieux. Et donc on a le choix entre deux types de matériaux. On peut avoir une fondation solide. Mais si on bâtit quelque chose avec des cartons et des bouts de planche rapiécés, dès que la tempête va souffler, on se retrouvera comme nu. Quels sont ces matériaux? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? On peut penser que c'est les enseignements, la qualité de ce à quoi on croit. On peut penser que la vie, c'est d'être le premier partout.
Everywhere.
Que ce qui compte, c'est d'arriver au sommet. Celui qui a le plus de jouets à la fin a gagné. On peut se laisser influencer par ces enseignements du monde qui ne prennent pas du tout en compte la réalité de Dieu. Ou alors nous pouvons bâtir notre vie sur la réalité profonde, la vraie vérité, celle de Dieu. Donc on peut considérer que c'est ce qui va nous motiver dans notre vie. On peut aussi considérer que ce sont nos œuvres, les bonnes choses que nous faisons. Il faut faire attention parce qu'il y a des fois des choses qui sont très visibles. Je
ne
sais pas si vous avez déjà vu une grande meule de foin.
Haystack.
Mais on peut le voir de loin.
You can see it from far.
Et pourtant, on peut avoir une bague, par exemple, en or.
You might have a gold ring,
qui sera plus précieuse.
It will be more precious.
Qui résistera au feu.
Fire.
Entre parenthèses, lorsqu'il est question des pierres précieuses qui résistent au feu,
so when we're talking about costly stones that can withstand the fire,
il y a peut-être des chimistes parmi vous et vous dites, mais le diamant, ça, c'est du carbone pur, ça brûle encore mieux que n'importe quel carburant. C'est juste. C'est pour ça que je pense, en fait, lorsqu'il est question de pierres précieuses, il est question de, comme des pierres de taille, des pierres de granit, des pierres qui sont massives.
So when we talk about costly stones, it's probably talking about graphite and expensive stones.
Juste au cas où vous auriez eu des granite. Juste au cas où vous auriez eu des questions sur ces pierres précieuses qui résistent au feu. Et donc, dans notre vie, on peut construire des choses qui vont en jeter plein la vue, comme on dit vulgairement. We can build things that will be like a big show-off, show-off, en jeter plein la vue, dazzling, mais qui, en fin de compte, n'ont aucune valeur. On peut chercher la richesse. On peut avoir le désir d'une superbe propriété sur les collines de Nice. Et puis quelques temps après, on est obligé de s'exiler à cause de problèmes judiciaires. Je ne sais plus à qui est cette villa maintenant sur la colline. Et donc, une chose très importante à réaliser, c'est que quoi que vous fassiez, vous êtes en train de bâtir. Que vous le vouliez ou non. Chaque action de votre vie, chaque journée, vous bâtissez. Avec quel matériau bâtissez-vous? Avec des choses valables, des choses qui vont durer. Avec des choses temporaires, des choses qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Pour essayer d'impressionner les hommes, au lieu de chercher de plaire à Dieu. Parce que Paul nous dit qu'il y aura un jour d'inspection. Verset 13, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Le jour, c'est avec une majuscule, c'est le jour du jugement dernier. Nous avons étudié dans l'Apocalypse les différents jugements qui attendent le croyant comme le non-croyant. Mais même pour le croyant, nos œuvres vont être jugées. Non pas pour savoir si nous allons ou non aller en enfer ou au paradis, parce que la Bible nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Si nous avons mis notre foi en Christ, alors nous sommes considérés comme justes par le Père. Mais il n'empêche, tout ce que nous faisons même en tant que chrétiens sera jugé. Dans 2 Corinthiens 5, 10, il est question du tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. La Bible parle d'un principe de récompense. Quelque part, on se dit, mais si on cherche à être chrétien pour avoir des récompenses, c'est une motivation égoïste. La Bible parle des différents types de récompenses que l'on peut obtenir. Il est question de plusieurs types de couronnes dans le Nouveau Testament. Et l'idée, je crois, c'est pas d'avoir une couronne plus belle que celle du voisin. Mais c'est d'avoir quelque chose à offrir en retour à Christ. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous trouver à une réception ou à une réunion d'amis. Et puis vous vous apercevez qu'en fait c'était l'anniversaire de quelqu'un, que les autres sont venus avec des cadeaux. et vous n'avez rien à offrir. C'est un sentiment très déplaisant. Parce qu'on aimerait bien montrer notre amour, notre appréciation. Et quelque part dans l'Apocalypse, il est dit que toutes ces couronnes, on les remet aux pieds de Dieu. Et peu importe que l'on aime cette idée de récompense ou pas, elle est dans la Bible. Et il y a quelques principes qui sont clairement indiqués, c'est que les récompenses, elles seront reçues au ciel. Elles seront basées sur la qualité et non sur la quantité. Dieu ne me demandera pas combien il y avait de personnes à Calvary Chapel. Mais est-ce que tu as préparé chaque sermon avec diligence? En essayant vraiment de communiquer la vérité. De la même façon, il ne vous demandera pas combien de personnes vous avez amenées au Christ. Mais il vous demandera, as-tu été fidèle à ce à quoi je t'ai appelé? Et ce jour-là, ce sera sans doute une expérience incroyable. Les étudiants terminales s'apprêtent à passer le bac bientôt. L'examen final. Il faut être prêt. Et heureusement, il y a des bacs blancs. Il y a du contrôle continu pour les exercer. Et Dieu aime aussi nous faire passer des examens surprises. Des épreuves qui nous tombent sur la figure. Des périodes difficiles dans notre vie. Il ne le fait pas pour nous écraser, mais pour nous fortifier, pour nous entraîner. Jean nous dit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ayez cette relation intime avec Christ, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Ça, c'est 1 Jean 2,28, pardon.
1 John 2:28. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming.
Et donc là, il y aura ce test.
So there'll be a test.
Nos œuvres, nos vies seront jugées.
Our works, our lives will be judged.
Et si les yeux de Christ, il nous est dit dans l'Apocalypse, sont comme des flammes de feu. Et on verra ce qui restera après le feu. S'il reste quelque chose, alors on aura une récompense. S'il n'y a rien du tout, alors on aura sans doute un grand coup au cœur. Il dit, j'ai rien à offrir à Dieu. Mais, verset 15, on terminera là-dessus ce matin, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Encore une fois, le salut ne dépend pas de nos œuvres. Nous sommes sauvés seulement par notre foi en
Christ.
Mais sans doute que nous nous retrouvons au paradis.
Et
il y en a, on s'approchera d'eux. Et ils sentiront un peu comme les gens sentent après une nuit passée autour du feu au camping. Ou lorsqu'on a passé, on a rencontré quelqu'un dans un café où tout le monde fumait. Il est sauvé, mais de justesse. C'est une idée qu'on retrouve souvent dans la Bible. Être arraché à l'incendie. Dans le prophète Amos ou dans Jude en parle aussi. Il nous dit même de sauver les gens en les arrachant du feu. Et donc ça doit être une invitation à vraiment méditer sur ce que nous faisons de notre vie.
So this is an invitation to really reflect on what we do in our lives.
Trop souvent, nous sommes pris par les événements.
Too often we're overtaken by events.
On n'a pas le temps de penser.
We don't have time to think.
Mais ce matin, je crois que le Seigneur veut que nous fassions un peu le point.
Yeah, I think this morning we should really reflect.
Et nous demander, qu'est-ce que je suis en train de bâtir?
And take stock and look, what am I building here?
On ne peut pas être neutre. On bâtit quelque chose, même si c'est moche, même si ça va se casser la figure. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut bâtir sur la fondation de Christ.